Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 88. Un millionnaire, Flaubert en Alsace et Jean-Luc Godard. Chers amis, bonjour. Je vais commencer par une phrase complètement idiote, mais vous allez rire. Et je vous ai déjà entendu la dire, cette phrase. C'est une phrase à laquelle on ne croit pas, parce que l'on sait que c'est impossible. Les statistiques, la probabilité ou simplement le bon sens vous disent de ne pas y croire. Il ne s'agit pas du bon Dieu, mais du loto, le gros lot, le super gros lot, super gagnant, super quelque chose qui est un impôt déguisé pour faire rêver les pauvres qui jouent régulièrement 5 euros et n'ont pas le courage de calculer combien à la fin de l'année ils ont perdu, assez pour se payer par exemple un voyage d'une semaine, tout compris aux Canaries ou aux Baléares. La phrase c'est « Si je gagne le tirage super millionnaire, je t'invite au resto ». Ou plus si affinité. Eh bien, je vais vous raconter comment cela se passe quand on a gagné 1 million. Ensuite, nous irons avec Flaubert rendre visite à Tourguenieff, à Baden-Baden, et les deux compères iront faire bombance dans une auberge de Rosheim, un festin comme celui du mariage de Madame Bovary, après avoir fait un petit tour de santé dans les rues chaudes de la petite France. C'est ma deuxième histoire de cet épisode numéro 88 de « Vous l'avez bien connu » sur Radio Judaïca Strasbourg. Et enfin, troisième récit, la venue de Jean-Luc Godard à Strasbourg. Il est passé à l'Odyssée, il a adoré l'ambiance, puis il a présenté son dernier film au ciné-club de Mutzig. Et là, le projecteur était mal réglé. Et vous verrez, même les génies peuvent être des champions du tournevis. Et comme pour chaque épisode, une musique judicieusement choisie va accompagner ces trois lectures. Et aujourd'hui, le jazz band de Haguenau. Première histoire, le tirage millionnaire du nouvel an de Krautergersheim. C'est le tirage spécial du Nouvel An. Comme chaque année, Jean Lucky X, alors il m'a demandé de rester anonyme, hein, donc c'est Monsieur X, joue les mêmes 6 chiffres et le numéro complémentaire au bar du tabac de la Grand Rue de Krautergersheim. Cela fait 33 ans que chaque dimanche, sans jamais y manquer, il coche les mêmes cases, toujours les mêmes. Une combinaison que tout le monde dans le village connaît par cœur. Mais je ne peux pas vous révéler ces 7 numéros de peur de perturber le hasard. Alors, on sourit avec bonhomie de ce monsieur maniaque. On est content pour lui quand il a 3 ou parfois 4 bons numéros et qu'il est heureux de payer une tournée générale. Pourquoi toujours les mêmes chiffres ? C'est une histoire d'amour, dit la rumeur. Alors, quand les 7 bons numéros sont sortis, ce fut comme un tsunami dans le village. En 5 minutes, la fanfare municipale était sous les fenêtres de l'heureux gagnant. Le maire, les enfants des écoles, tout le monde était là. On riait, on applaudissait, on spéculait sur la générosité de Lucky. On faisait sauter sous ses fenêtres des bouchons de crémant. Il parut. On hurlait de joie. Il bénissait la foule comme le pape Saint-Bonheur. « Ah, mes amis, mes amis !» Immense salve de clameurs. « Je vais construire une salle des fêtes polyvalente !» commença-t-il des sanglots de félicité dans la voix. Il s'enhardit. Pêle-mêle, il annonça 1 000 euros à chacun des enfants comme argent de poche. Tarte flambée gratuite toute l'année. Une collection complète des Pléiades pour la bibliothèque municipale. Lui, il s'achètera une Rolls-Royce Phantom 5, jaune psychédélique, comme celle de John Lennon. Il va se marier et faire une croisière autour du monde. Non, il ne déménagera pas. Ah, il manque d'idées pour dépenser les 190 millions d'euros. Super gros loto. Oui, il va se construire à Krautergersheim une grande villa avec une salle de cinéma à l'étage, rue des Champs Verts. Pour le moment, il vit dans un immeuble cossu, un tout petit deux pièces avec dans le salon la salle à manger et le bureau, hein, tout est dans la même pièce. Il a une petite commode à tiroir où il garde tous ses billets de loto, une enveloppe par année. Mais en fait, où est-il le billet gagnant ? Chaque semaine, il met le ticket dans un petit pot à la cuisine, mais il n'y est pas. Il cherche, fait le tour de l'appartement en faisant semblant de ne pas paniquer. Il retourne les poches de sa veste, se penche sous le canapé, il vide la poubelle, il décroche les étagères. Mais où est ce merveilleux billet ? Il s'enferme, démonte tout l'appartement, rien. On sonne, ce sont les officiels du loto, avec un banquier, un notaire, un conseiller fiscal, une psychologue et deux gardes du corps d'une société de protection et de sécurité. Le propriétaire du bar a déjà raconté 100 fois aux télévisions la persévérance du très heureux gagnant. Il donne tous les détails des circonstances de l'achat du ticket cette semaine. Trois clients peuvent témoigner l'avoir vu mettre le papier dans sa poche droite. Et l'ordinateur confirme les chiffres. Mais où est ce foutu billet ? Sans billet, rien. Pas de gain. Le règlement est formel. Ah, vous avez, monsieur, 60 jours pour présenter le ticket et récupérer vos gains. Ce fut comme si l'Etna avait surgi sur la place du village. On fit appel à des hypnotiseurs, des chiens renifleurs, des voyantes, aux meilleurs spécialistes de la police scientifique. Il ne restait plus que 10 jours. Alors, avec l'accord du propriétaire, on démonta brique par brique tout l'immeuble. On brûla des cierges à l'église et on se relayait pour prier au calvaire Meistersheim, réputé pour la guérison miraculeuse des lépreux et pourquoi pas des chanceux. Des quatre coins de l'Europe, on proposait des méthodes de recherche. On fit tourner des tables. Des ornithologues tintinophiles fouillèrent les nids de toutes les pies des environs. On poussa des cris, on versa des larmes. Et il fallut des années pour cesser de raconter à Krautergersheim qu'on était tous millionnaires. Le jazz band de Haguenau qui joue depuis 1966. Alors moi, je me souviens de René Bastian qui en avait été un des chefs d'orchestre. Et là, vous avez reconnu le célébrissime thème de Duke Ellington, Caravan. Deuxième récit, nous remontons au milieu du 19e siècle pour une rencontre badoise et alsacienne. Vous savez que j'aime bien répéter que mes histoires ne sont pas des reportages, hein, mais des petits jeux avec la littérature. Et je cite souvent Gustave Flaubert, « Tout ce qu'on invente est vrai ». Le festin de Flaubert dans la petite France et à l'auberge de la Chartreuse. C'est un souvenir de lendemain de réveillon. Celui d'un dîner gargantuesque que l'on se racontait chaque année le soir où l'on sautait sur une autre. La bonne chair, et les chairs bien bonnes, voilà ce que Gustave Flaubert apprécia lors de ses deux séjours en Alsace. Le 13 juillet 1865, il arrive à la gare de Strasbourg depuis Paris, pour se rendre à Baden-Baden chez son ami, l'écrivain russe Ivan Tourguenieff. Il y retrouve aussi Maxime Ducamp, avec qui il a voyagé en Bretagne et en Égypte. Le Badelblatt annoncera l'arrivée de la célébrité dans son édition du 15 juillet. Flaubert écrit à Louis Bouilhet « Quel beau pays !» Mais les compères ne se retrouvent pas seulement pour les bienfaits des eaux thermales. Il traverse à nouveau le Rhin. Alors, il n'y a pas de bal du 14 juillet, célébration qui ne débutera qu'en 1880. Ils veulent s'étourdir dans la petite France pour, alors je cite la correspondance de Gustave, « Une nuit de danse et de baisade, comme à Esmé, en Haute-Égypte, chez l'esclave abyssienne Kouchoukanen, avec Ivan. Il y avait peut-être un peu plus de pudeur qu'avec Maxime, mais opportunément, entre amis, il n'y a aucun embarras. Ils ont chacun la même ambition d'absolutisme littéraire, la même prétention d'éthique morale, la même rigueur pour le mot juste, la même vanité non avouée pour les honneurs et la même passion frivole pour les choses autres que celles de l'esprit. Les Alsaciennes sont savoureuses. Elles dandinent du postérieur comme si c'était des bretzels aux rondeurs à croquer. L'excursion sous les ponts couverts est d'une belle complicité dont on pourra trouver le souvenir aux dernières lignes de l'éducation sentimentale lorsque Frédéric Moreau et Charles Delaurier se rappelleront être allés rendre visite à la Turque en tenant de gros bouquets. Alors la Turque, c'était le nom de la maison close. Alors après avoir goûté au charme du quartier, les amis décident de faire bombance. Il y a près de Rosheim une auberge très connue, adossée à la Chartreuse, où Flaubert prend l'initiative de la commande du menu. Le repas va durer 16 heures et j'ai retrouvé la trace écrite très précise de ce banquet. Des aloyaux, la pièce noble du bœuf, pour commencer. Puis, fricassé de poulet, veau à la casserole, gigot, cochon de lait rôti, andouille à l'oseille, crème jaune et crème avec décor en non-pareil, des tourtes, des nougats, et enfin une pièce montée avec des fortifications en angélique parsemées d'amandes, de raisins secs et de quartiers d'orange, de lacs de confiture et de bateaux en écale de noisettes, et une escarpolette de chocolat. En boisson, du schnapps en carafe, du riesling pétillant doux et des verres remplis de vin jusqu'au bord. Ce n'était peut-être pas la première fois que Flaubert passait en Alsace. En mai 1851, il rentre avec sa mère d'un séjour à Venise. Et après une altercation avec un douanier autrichien, il traverse l'Allemagne et passe probablement par Strasbourg pour prendre ensuite le chemin de Rouen. mais la présence de la maman n'avait certainement pas permis de belles extravagances. Le caractère complexe des Alsaciennes croisées lors de ce premier voyage à l'Est inspirera certainement l'écrivain, puisque une semaine plus tard, il débutera la rédaction de « Madame Bovary ». Emma Bovary, un peu alsacienne ? Tanga Nova par le Jazz Band de Haguenau. C'est un CD que j'ai acheté à la sortie d'un concert. Vous savez, quand vous êtes un petit peu sur un nuage et puis vous vous dites « Ah, j'apprendrai bien le saxophone ». Bon, troisième récit de cet épisode, numéro 88 de « Vous l'avez bien connu » sur Radio Judaïque à Strasbourg. L'histoire assez cocasse de la venue du grand cinéaste Jean-Luc Godard à Strasbourg. Alors c'est un monsieur très sympathique qui n'aime pas trop les mondanités, mais il adore écouter les cinéphiles fanatiques, comme moi par exemple, raconter des bêtises sur ses films. Et là, ce jour-là, il file dans la cabine de projection et serre la main du technicien. Il jette un coup d'œil à la machine et je vais vous raconter cela. Jean-Luc Godard, projectionniste au Ciné-Club de Mutzig. Alors, il y a une génération de cinéphiles qui sont des gens qui regardent les films en entier, en version originale, sous-titrée, et non pas sur un écran de téléphone timbre-poste, mais dans une salle, avec d'autres spectateurs, des cinéphiles qui rient et qui pleurent ensemble, et sur l'écran noir de leur nuit blanche. Avant de fréquenter les salles de cinéma à arrêt essai, où l'on ne grignote pas de pop-corn bruyant pendant le film, mais où l'on rêve de sucer des micos glacés s'il y a un entracte, cette génération de cinéphiles a appris à aimer le cinéma au lycée, dans des ciné-clubs, souvent dirigés par le prof de français. Ensuite, il y a eu la télévision avec le cinéma de minuit et la dernière séance, et puis les cassettes VHS, les DVD, le câble, les abonnements à des chaînes spécialisées. Et puis, c'est rare, mais c'est souvent sous l'impulsion d'un passionné, on a réinventé la convivialité du ciné-club, avec 10 minutes de présentation du film et un débat de 20 minutes à la fin. Il faut terminer parce que le gardien, il veut fermer. Le monsieur cinéma de Mutzig, c'est Eric, un ami de toujours. J'ai connu son père qui avait été journaliste pendant la guerre, à la radio à Strasbourg et à Paris, dit-on, et qui ensuite tenait une chronique d'actualité allemande à FR3 Alsace. Et son fils, Eric Gissenhofer, jeune étudiant, était président du ciné-club allemand à la fac. Il est arrivé à Mutzig pour être directeur de la cinémathèque. Il est le grand animateur du cinéma Le Rohan. Il garde des contacts à Strasbourg et lorsqu'en 1992, le bon vieux cinéma Union Théâtre ABC devient l'Odyssée Art et Essai, il est parmi la foule pour l'inauguration. Alors, à l'Odyssée, c'est une séance de prestige. Jean-Luc Godard présente « Allemagne, années 90-90 », une histoire d'espion après la chute du mur de Berlin. L'espion, c'est Eddie Constantine d'Alphaville. Et au cocktail, tous les intellectuels et artistes allemands sont là. Eric, parfait bilingue, fait l'interprète. Godard est ravi et adore son verre de vendange tardive qu'il appelle « Vengeance » tardive, bien évidemment. Eric lui parle de son cinéma à Mutzig. « Pourquoi ne viendriez-vous pas dans mon ciné-club présenter votre film et animer un débat ?» Épatant comme Pierrot le Fou, Godard accepte. En fait, Mutzig, il connaît le nom. Il a en tête une série de films sur l'histoire du cinéma qui commencerait à l'ère des chasseurs nomades néandertaliens. Et à Mutzig, on vient de découvrir un site paléolithique sous la falaise de Feldbourg. C'est donc oui, soirée de gala au Rohan. La veille, Godard a fait des repérages archéologiques avec le critique de cinéma Serge Danet, qui écrira les dialogues de cette saga. Le cinéma n'est pas à l'abri du temps, il est l'abri du temps. Métaphore du monde en marche, des hommes des cavernes jusqu'aux spectateurs des fauteuils rouges de la salle de Mutzig. La séance va commencer. Enthousiasmé par la grande foule, Jean-Luc, Eddy, Serge et Eric font une magnifique présentation en rivalisant d'humour. Mais voilà Godard qui se précipite en cabine. Le vieux projecteur 35 mm Cinema Canica à charbon est mal réglé. La boucle du film est trop petite et sautille dans son couloir, ce qui rend la pellicule instable devant la fenêtre de projection. Godard demande un tournevis et une pince pour resserrer le tambour débiteur. Dans la salle, on attend. Personne n'ose s'impatienter. « C'est Godard, murmure-t-on, autant perfectionniste à la projection qu'au tournage de ses films. » Enfin, le cinéaste réapparaît, grand sourire, et de sa voix inimitable, interroge les spectateurs. Qui a inventé le cinéma ? Non, ce ne sont pas les frères Lumière, ce sont d'obscurs techniciens, Jules Carpentier et Oscar Mester. En 1896, ils ont mis au point le mécanisme de la Croix de Malte qui permet à la projection saccadée de restituer l'illusion du mouvement. C'est ce que je viens de régler. Sans cette petite plaque de métal, le cinéma n'existerait pas. Et Godard se lance dans de longues explications, mêlant la persistance rétinienne aux analyses sémiologiques. Il était 2 heures du matin lorsque les spectateurs de Mutzig sont rentrés chez eux. Eric, un double de la clé de la salle. Gingerbread Boy par le Jazz Band de Haguenau. La semaine prochaine, vous l'avez bien connu, vous emmènera au fin fond d'un petit village où un drame terrible s'est déroulé, un bébé qui tombe de sa planche allongée. Puis je vous raconterai comment le Burizel de l'Orangerie, le vieux restaurant au mur historique, va déménager à Molsheim. Et enfin, un peu de science-fiction, le remake des parapluies de Cherbourg à Aubernay. Vous pourriez lire et relire toutes mes petites histoires sur mon blog AFP, Ambroise Fiction Presse, sans cookies ni publicité. Mais notre rendez-vous sur les ondes, c'est tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli, et mon nom est Ambroise Perrin.